RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC. Et voilà, on sait qui est champion NBA. C'est un spécial fin de saison. Alors je dis spécial fin de saison parce qu'on va faire un petit accro dans notre programme sur OKC au transfert de Kevin Durant. Je vous présente la Dream Team tout de suite. Félix, Arnaud et Fred. Arnaud Valadon, Fred Weiss, Félix Gabory. Salut les gars.
Salut Pierre.
Magnifique Dream Team. Tout le monde.
Fred, dont on a vu un magnifique documentaire sur Canal+ ce week-end. Fred, on était émus, je le dis.
C'est vrai.
Oui, on était émus. Bah, écoute, par ce très
j'ai failli pleurer à la fin, moi, vraiment.
Ne pleurez pas, je suis là, tout va bien.
Et alors, j'ai appris que travailler dans les médias était non seulement un grand plaisir, mais presque aussi une thérapie. Alors, je ne savais pas que tu avais tant de plaisir à partager notre quotidien, à travailler avec nous, parce que comme tu arrives, tu es tout le temps de mauvaise humeur.
Oui, mais tu remarqueras que dès qu'on commence l'émission, ça va mieux. C'est ça le truc.
Dès que le bouton est rouge.
Je ne vais pas vous mentir, vous fréquentez, ce n'est pas vraiment mon kiff, mais par contre, travailler avec vous, c'est cool.
Jusqu'au quiz.
Et là, ça part.
Hop, de nouveau, tu es de mauvaise humeur.
Exactement.
On va voir si c'est le cas aujourd'hui. Alors, voici ce spécial fin de saison. Était-ce une grande finale ? Alors, c'est vrai qu'on a vécu des très beaux playoffs, une finale plus indécise qu'on pensait, mais je vous pose la question, était-ce vraiment une grande finale ? Jusqu'où ira Shai Gilgeous-Alexander ? J'ai dit Shai parce que sinon Fred va me reprendre.
Oui.
Parce que j'ai tendance à dire Shai.
Oui, mais il shine pas.
Il est shy,
mais like a diamond.
Et puis, dans la partie historique, qui est le plus grand joueur de l'histoire du Thunder ? Histoire très courte, mais alors que déjà très très dense. Hein. Ils ont déjà vu passer un sacré nombre de joueurs. Hein.
Ouais, c'est pas mal, il y a quelques joueurs. Félix, qu'est-ce que t'en penses ?
On va pas dans le top 3. Moi, je veux pas spoiler mes arguments parce qu'après.
Le connaissant, il va nous parler de Thabo Sefolosha.
C'est possible.
Le quiz, c'est un quiz de fin de saison et nous allons innover. La question Mesmer va prendre de l'ampleur. Ouais, je vous le dis tout de suite, la question Mesmer, elle va passer, elle va step up. Vous êtes
prêts ? Ça vaudra plus de points ou non ?
Non, ça vaudra pareil. Mais ça va encore plus t'énerver. Allez, c'est parti, on revient sur la finale et le titre d'OKC pour démarrer.
Et to the Oklahoma City Thunder, congratulations, you're the 2025 NBA champion.
Blocked by Hunter, Dort to save. SGA splits the defense, kicks it out, Williams a three-pointer, bang! Contest from Dort, Halliburton falls down, he looks hurt. Here comes SGA the other way, inside, and Williams throws it. Caruso gets another good look from three. That's good. Caruso off the bench with back-to-back three. The Thunder have taken the NBA by storm. For the first time, the NBA champion resides in Oklahoma City. The storybook season is complete.
Alors OKC champion, on savait qu'il y aura un champion inédit puisque ni OKC ni Indiana n'avaient été titrés. On a une grande équipe, un grand MVP qui a fait des choses fantastiques toute la saison et 7 matchs en finale. Est-ce que ça fait de cette série une grande finale ? On a quand même tous évidemment été frustrés par la blessure de Tyrese Haliburton dès le premier quart-temps du match 7. Fred, est-ce que tu as vu une grande finale NBA ?
J'ai vu une grande finale NBA. Parce que c'était deux équipes qui jouaient très bien au basket, où ça court, où c'était un basket, que l'expression basket total, c'est-à-dire que défense, attaque, des deux côtés, ça court, ça a envie d'aller près du cercle, et malgré ça, il n'y a pas eu énormément de points, ou en tout cas pas à chaque match. J'ai pris beaucoup de plaisir tactiquement à avoir deux grands coachs aussi, Mark Degno et Eric Carlisle ont été très bons, ont fait des ajustements d'un match à l'autre. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai vu des joueurs qui sortaient du banc, qui apportaient des Caruso. Quand tu le vois, tu te dis, bah, c'est pas forcément lui. TJ McConnell, bah, tu te dis, bah, c'est pas forcément lui qui va faire la différence. Et pourtant, si, j'ai vu des effectifs, j'ai vu de la volonté, j'ai vu de l'énergie. Et j'ai vu un match 7. Donc oui, moi j'ai vu une énorme finale.
Félix,
c'était une très grande finale. Fred, on a bien parlé sur l'aspect très sportif, même en termes de symbolique, en fait, en termes de scénario, on avait tout ce qu'il fallait. Évidemment, le Game 7, c'était plus arrivé depuis 9 ans, donc c'est quelque chose de rare dont on doit absolument profiter. Et même le scénario, tu as parlé un peu de la blessure d'Haliburton, Pierrot, mais ça fait partie justement de pourquoi c'est des grandes finales. Évidemment, c'est très triste. Si on est fan des Pacers, on est très triste. Nous-mêmes, on était tous très tristes devant ce match-là. Mais ça fait partie du scénario qui le rend un petit peu épique d'avoir une blessure comme ça. C'est la dramaturgie. Ce sont des choses dont tu te rappelles encore dans 5, 10, 15 ans, 20 ans. On se rappellera de Tyrese Haliburton qui était tout proche de réaliser quelque chose de très, très grand après un run de playoff exceptionnel et qui s'est effondré comme ça.
Et qui ensuite aura disparu parce qu'il ne reviendra jamais de sa blessure. Ça va être ça l'histoire. Hein. Ça
oui, mais
tu
mais quand bien même, ça crée une histoire de sport. En fait, c'est magnifique.
Vous ne trouvez pas que, Arnaud, que ce match-là, il est complètement gâché par la blessure d'Ali Burton?
Mais elle est un peu prévisible parce qu'on savait qu'il était diminué. Il y avait ce mollet, il ne pouvait pas trop pousser sur sa jambe. Il était diminué sur ça. Moi, je trouve que grande finale, et c'est la finale du bon sens paysan. Parce que ça bosse bien.
Et
ça
soit Indiana. On est tous devant la télé.
Ah, ok, ici, en plus.
Du coup, les audiences sont catastrophiques.
Sauf le match 7. Ouais, 16,4
millions.
Plus 74%.
C'est énorme. C'est
record
énorme.
Depuis 2000,
depuis 6 ans.
Oui, parce que c'est pas une affiche qui est méga sexy, mais ça reste un moment où la télévision linéaire, que ça soit partout dans le monde, en France, aux États-Unis, est en train de baisser. Ça a quand même fédéré 10 millions. Et aujourd'hui, aux États-Unis, quand t'arrives à fédérer, c'est plus de 10 millions le match 7, ça reste un programme qui attire du monde, hein, au moment où voilà, t'as du Netflix, t'as toutes ces plateformes. Non, je disais le bon sens paysan parce que OKC, c'est tellement mérité, tellement ça travaille bien, c'est cohérent le projet. Et quand tu vois encore tous les assets futurs, t'as un Nikola Topic au frais, blessé, qui va arriver, qui va intégrer. Chet Holmgren peut faire mieux. Tu vois le niveau de Jalen Williams, etc. On en a déjà parlé dans ce podcast. Et puis tu vois Indiana, bah là, c'est un coach, on prend une équipe, on essaie de construire. Il reste un peu court parce qu'il y a cette blessure d'Ali Burton. Encore que, même s'il était là, peut-être que OKC l'aurait fait quand tu vois la pression qu'ils ont mis sur la balle, le fait de générer autant de pertes de balles. Je regardais un petit peu les stats. 7 pertes de balles pour McConnell, qui certes, à un moment, prend feu, va marquer tous les paniers un petit peu tout seul. OKC, c'est 8 ballons perdus sur cette finale. Quand tu vois la pression qu'ils ont tous mis, les Aaron Wiggins, les Lou Dort, etc.
C'était asphyxiant en deuxième
mi-temps.
Même moi, j'étais devant ma télé, j'étais asphyxié.
Tu savais que ça allait céder. Ils prennent 34 points à Indiana, mais ça récompense deux équipes qui travaillent bien. C'est encore un septième champion en sept ans. C'est pour ça que je vous ai écouté. J'ai des petits doutes sur la dynastie OKC. Okay, si, ils seront là, ils seront à la table. Mais est-ce qu'ils seront champions tous
on
les ans quand tu vois la densité
débat.
J'allais poser la question de savoir qui tu voyais d'autre, mais ok.
Bon, on va en parler dans le deuxième débat.
Mais non, grande finale.
Sur la trace que laissera
Tu sais pourquoi je mets aussi grande finale? C'est que chaque match était incertain. Il n'y a pas eu non plus d'énormes blowouts. Il y a le match 6 où la Indiana revient, mais à chaque fois, je me mettais devant la télé, je me dis, je ne sais pas ce qui va se passer.
C'est vrai. C'était imprévisible. Grande finale, mais pas du tout. Enfin, finale pas du tout historique et qui finit.
Non, en fait,
et qui finit. Qui finit très mal. Non, je suis désolé.
C'est pas historique.
Pas du tout historique parce que le match 7, il y a pas de suspense.
Tu n'es pas un romantique. Pierre,
je suis
pas
au contraire un romantique.
Bah non, le romantisme, non. Ça voudrait dire que.
Si, je suis d'accord. Pierre, a raison. T'es romantique parce que, enfin, c'est la dramaturgie. Tu dis, mais il y a pas Ali Burton.
Ben non, c'est le contraire. C'est voir un homme.
Oui, mais le héros, il meurt à la fin.
Oui, mais c'est pas.
Si Indiana gagne 8.
Mais en fait, c'est ça. Moi, je trouve que cette dramaturgie de savoir.
Ben non, là, il est mort et il reste que 12 chapitres.
Et malgré ça, ses compagnons. Les armes à la main.
S'il se blesse à 30 secondes de la fin du quatrième quart, tu peux parler de romantisme. Là, c'est pas du tout.
Ou alors, si Indiana gagne, là, ça change tout. C'est sans leur meilleur joueur. Mais... Ils y arrivent avec des soldats, des mecs sortis du banc. Et c'est vrai que.
Je vous rejoins sur la grande finale parce que moi, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas régalé autant, que j'avais pas autant suivi une finale. Sauf que je me suis levé dans la nuit de dimanche à lundi pour rien. Pour rien.
Après,
parce
il y a eu du suspense jusqu'au bout. Enfin, il n'y a pas eu de blowout.
En fait,
il y a
une mi-temps. Bravo, Indiana.
Ils sont à moins 10, moins 12.
Ils reviennent de moins 22 à moins 12. Ouais. Et là, s'ils l'avaient fait, ça aurait été plus qu'historique. Parce que tu voyais bien qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et comme vous l'avez noté, la pression défensive était trop forte. Ils ne pouvaient pas. Il y avait un niveau trop élevé. Et peut-être qu'avec Ali Burton, tu aurais eu un facteur un peu de magie. Parce que je ne pense pas que ça aurait élevé le niveau de l'équipe au-dessus de celui d'OKC, mais il a manqué l'incertitude jusqu'au bout. Donc c'est pas une finale historique, c'est pas une si grande finale.
Bah, quand on dit finale, on juge la
très beau basket, mais je suis pas sûr qu'elle reste dans les mémoires. Voilà.
Moi, je suis persuadé qu'elle reste dans les mémoires. Je suis persuadé parce que c'est deux très belles équipes et on en parlera tout à l'heure. Mais je pense que du côté de l'OKC, on est sur le point de faire une dynastie. Donc à partir de là, ça sera les débuts, les balbutiements d'une dynastie et donc forcément ça restera.
Et même le run d'Indiana, on s'en rappellera encore dans des années et des années. Et même je trouve que, bon, il n'y a pas le titre au bout, mais ils ont un peu redistribué les cartes de ce qu'une équipe peut aller, enfin, comment une équipe peut aller très loin. D'habitude, on a toujours l'impression qu'il faut absolument au moins deux superstars pour aller très loin à chaque fois quand on réfléchit à la construction d'équipe. Là, c'est absolument pas le cas. On a vu qu'avec on a eu plein de débats sur est-ce qu'ils avaient ne serait-ce qu'une superstar et pourtant ils ont été en finale jusqu'au Game 7. Je trouve que ça
il
un peu redistribué les cartes
tueur sur l'adresse extérieure quand même.
Bah, c'était Ali Burton qui avait démarré plié au plancher
mais qui n'est pas constant.
Non.
Il ne le fait pas à chaque match. Je pense qu'ils avaient un mec en sortie de banc qui était capable de mettre des 3 points quand ils se font détruire la tronche dans la raquette.
Mais moi, je pense que c'est la raquette qui a le principal problème. C'est
eh oui, sur le poste si 5. Ressortir.
Parce que Miles Turner, il fait des. Alors, il est
c'est
plutôt
un bon
pas
joueur
mauvais.
Ou pas,
c'est, alors,
c'est un bon joueur.
C'est un bon joueur, c'est un bon contreur. Il va bien protéger le cercle. Alors, en homme, déjà, c'est un peu plus compliqué de défendre pour
mais,
lui.
Mais il n'est pas top 10 des intérieurs.
Mais
de la Ligue,
hein. Il n'est même pas top 20 des rebondeurs. Surtout, il est bon dans son rôle, quoi.
Surtout, c'est qui son remplaçant? C'est Thomas Bryant?
Bah, il y a Topin ouais, quand même. Qui peut...
Non, mais Topin, c'est un poste 4. Oui, donc je ne sais pas, en vrai poste 5.
Mais il
5,
fait du boulot quand même.
Je ne sais pas si je re-signe Miles Turner, moi. Mm-hmm. Vraiment.
En mais plus, parce qu'il est agent libre.
Donc je sais pas si je re-signe. Je pense que la variable
justement.
Il faut
trouver la perle rare, hein, parce que
ah bah,
là, tout le monde veut
bien
un pivot. Hein.
Ah oui, mais
déjà,
là,
les Lakers vont se servir en premier, je pense.
Miles Turner aux Lakers.
Le marché va les aider, bien sûr. Le marché des Lakers, c'est bien plus important que celui d'Indiana par rapport à ça.
Miles Turner aux Lakers.
Ça fait partie des noms envisagés parce qu'il est agent libre.
Si, ça aussi, parce que comme il écarte le jeu
et
qu'il protège.
Intérieur, mais pas. Mais ouais, tu comptes toujours sur tes extérieurs pour gagner les matchs, quoi.
Bah oui.
Parce que Miles Turner est un pivot qui tire à 3 points.
Ouais, oui, mais il va écarter justement.
Là, ils ont vraiment rien du tout. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de plus costaud que Miles Turner?
C'est un bon contrat, hein. C'est un très bon contrat.
Ça parle un peu de Bam Adebayo, j'ai vu là depuis hier.
C'est top 5 pivots de la ligue.
Ouais, ça va être cher, quoi, par contre.
Oui, ça va être cher. Tu vas jouer à 3 dans les cartes.
On parle de Walker Kessler, un trade avec Utah aussi.
Bah, voilà. ça
serait fort. Tu veux un rim protector, mais il faut payer.
Mais encore une fois, donc Indiana ne sera pas servi en premier.
Oui, ils ne seront pas servis en premier, c'est clair.
Bon, et après, pour revenir au thème, est-ce que c'était une grande finale? Le seul petit problème, c'est comme ça, c'est le sport, mais. À la fin, il s'est passé ce qu'on attendait. C'est-à-dire oui. Que OKC a dominé, OKC a gagné, et malgré le fait que Indiana nous a tenu en haleine toute cette finale en nous faisant croire qu'il allait peut-être se passer un truc, mais ils finissent le match 7 sans toute leur force vive, et ben voilà. Match terminé.
Ouais, donc. Mais le fait de repousser l'échéance, est-ce que ça rend pas justement une grande finale?
Magnifique.
Tout le monde, à part Félix, avait parié sur un 4-0 ou un 4-1.
Merci de le noter, Fred.
Et en fait, on se rend compte que, ils ont réussi à repousser l'échéance, qu'ils ont fait douter de temps en temps au Casey, qui semblait être un rouleau compresseur absolu. Et finalement, tu te dis, non, ça n'a pas été si simple que ça.
En imaginant que Miles Turner reste, donc qui garde à peu près la même ossature l'an prochain.
C'est leur volonté,
après,
sauf que Haliburton ne sera pas là.
Après les avoir sous-estimés l'an dernier, après les avoir encore sous-estimés cette année. Est-ce qu'on va continuer de sous-estimer Indiana?
Sans Haliburton,
c'est compliqué
pas pareil,
parce que t'as pas Haliburton.
Oui,
c'est là où c'est tellement dur sur cette finale, parce qu'en fait, ils perdent plus que la finale. Ils savent qu'ils perdent quasiment un an d'Haliburton. Enfin,
ils sont pas prêts
à
tourner
un an.
Après, l'ossature, tu dois la garder. Parce qu'on a fait que louer l'effectif et la puissance collective d'Indiana. Je crois avant le match 7, il y avait 8 mecs qui étaient à plus de 10 points de moyenne sur les finales. C'est absolument colossal. Je pense que tu dois garder justement cette ossature. Et tu as plein de mecs qui sont jeunes. Des Mathurin, des Numbard, même Pascal Siakam. Il a quoi? Il a 30 ans, 31 ans.
Oui, il n'est pas très vieux, mais surtout, c'est un joueur fantastique.
Tu dois garder cette ossature.
Et Mathurin, t'imagines, tu lui mets un cerveau?
Ouais, les fils se touchent un petit peu.
C'est le nouveau pote de Fred, j'ai l'impression.
Ah non, c'est un joueur incroyable. Il a des qualités physiques extraordinaires. Le mec est plutôt sympa d'ailleurs, comme ça. Mais le mec parfois ne comprend rien.
Au basket
je crois.
Ah ouais. Par contre, vous avez vu le nombre de joueurs à conférence Est avec le flocage numéro 0 qui se sont fait un tendon d'Achille. Damien Lillard, Jason Tatum, Tyrese Haliburton.
Ah,
c'est le nouveau
cœur, ça. Ok. Et là, il est flippant, Arnaud, parce que là, je ne l'attendais pas du tout sur ce
registre. Ce que je viens d'y repenser, mais...
Certains disent que c'est peut-être les plus beaux play-offs depuis 20 ans.
Oh. Après, il y a eu énormément de surprises. Hein. C'est dur de tout se remémorer. Bon,
moi, j'ai beaucoup aimé le premier tour, qui laissait présager plein de choses.
Après,
et je trouve que ça, c'est un peu descendu. Mais le premier tour était juste incroyable.
Et puis New York, c'est pas du très beau basket non plus, même si après, on aime bien les fans de New York quand même.
Ouais, c'est ça, de voir les fans de New York.
En tout cas, une franchise, c'est assez exceptionnel pour ça.
Ouais, mais Jalen Brunson aussi. Hein. Rien que pour lui, je trouve que c'est juste.
Ces playoffs ont été surtout magnifiques à la conférence Est, parce que tout a volé en éclats nos certitudes de la saison régulière. Entre Boston, entre Cleveland,
Denver,
OKC,
c'était stylé. Hein.
Ouais.
Il y a eu du niveau,
même
mais
le petit run de Golden
Clippers,
State.
Le Clippers Nuggets aussi était magnifique dès le premier tour.
Ouais. Sauf que les Clippers, c'est un goût, tu t'es dit, ils vont faire un truc, mais ils n'ont rien fait. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais pas les plus beaux depuis 20 ans.
Non.
C'est quoi les plus beaux depuis 20 ans?
C'est trop difficile de déterminer.
2011
Peut-être.
Ah, c'est le run de Dallas qui est magnifique
c'est ça,
en 2011.
C'est
même l'année d'avant, en 2009-2010, tu finis un Lakers Celtics. Au match 7.
Il y a eu des beaux runs de playoffs, mais je te dis, moi, c'est vraiment premier tour extraordinaire, et je me suis dit, ce sera les meilleurs playoffs de ma vie. ça serait un peu étiolé après.
2016, c'était une folie si tu cherches aussi des. Parce que, évidemment,
2016,
il y a le.
C'était quoi 2016
bah, c'est le Cavs, le Warriors. Tu as le titre de Cleveland avec un scénario de dingue.
Oui,
et même avant, tu as
les Warriors qui remontent leur ensemble, hein, pas que de la
contre
finale.
Contre hein. En finale de conf, les Warriors remontent un 3-1 contre Durant, etc. Et,
bah, c'est ce qui crée le.
C'est la fin, c'est la dernière saison de KD. C'est le départ. Ça avait été une série incroyable.
Basket Time spécial fin de saison. On enchaîne sur l'homme qui aurait été l'homme de la saison.
For the first time in 25 years, the same player won the regular season MVP, the scoring title, and now he's your finals MVP. Shai Gilgeous-Alexander.
Gilgeous-Alexander, the spin, open three. That one bounces in.
I love MVPs, I love All-Stars, I love all the accolades that comes with it, but none of it matters if you don't win.
It's one thing to beat people, it's another thing to demoralize them.
Gilgeous-Alexander, a three-pointer, knocks it down. Right there.
This man is standing in everybody's way right now.
NBA most valuable player, Shai Gilgeous-Alexander.
Shai, toi tu dis Shai, comme les gosses quand ils veulent se moquer.
Parce que son vrai prénom c'est Chevante.
Ok.
Voilà.
Ah, le nom complet c'est Chevante.
Oui. Attends, j'ai le nom complet parce que des fois tu sais. Alors il est canadien, on rappelle. Chevante Haitian Gilzus Alexander.
Ok.
Voilà.
C'est pas simple.
C'est mieux Chev. Hein.
Alors MVP des finales, meilleur score de la saison. Jusqu'où ira Shai Gilgeous Alexander, Frédéric Weiss.
Mais il a déjà fait mieux que Tatum, non?
Il a déjà fait mieux que Tatum. Pour l'instant, ils sont à un titre
MVP.
Chacun.
Ils ont un titre. Ouais, mais MVP des finales et MVP de.
S'en fout, MVP.
Non.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est MVP de la saison et champion. Et ça fait 10 ans. C'était Steph Curry 2015.
Non, mais c'est surtout que tu sais qui a fait ça. MVP des finales, MVP de la saison régulière et meilleur scoreur.
Kobe.
Il n'y a que 4 joueurs dans l'histoire, en comptant Shai.
Shaq,
Abdul-Jabbar, Michael Jordan.
Il n'y a pas Kobe.
Et Shai. C'est tout. Donc oui, il a fait mieux que Jason Tatum.
Alors du coup, tu l'imagines laisser quelle empreinte à la fin de sa carrière? Il n'a que 26 ans.
Ben, en fait, il a réussi à amener une équipe à avoir le 4e meilleur bilan de l'histoire, c'est-à-dire le plus grand nombre de victoires en comptant la saison régulière et les playoffs. 4e, donc ça veut dire qu'ils ont une marge de progression incroyable. Sam Presti est un architecte de la réussite. Il a encore plein de tours de draft, donc il va pouvoir continuer à faire des ajustements. C'est une équipe qui est encore très jeune. Alors, ce qui est inquiétant, évidemment, hein, c'est la façon dont est gérée la NBA. Tu sais que tu ne peux pas dépasser un certain salaire, donc un salary cap. Et le salary cap m'inquiète un petit peu quand il faut re-signer tout le monde. Mais en attendant, tu as une équipe de jeunes, des loups, des mecs qui ont envie de courir avec le meilleur joueur de la Ligue.
Alors, c'est le meilleur joueur aujourd'hui, il n'y a plus de doute avec Jokic.
Non, mais
je pose la question sans arrière-pensée.
Pour moi, ça reste Jokic.
Ça a été un débat toute la saison. Hein,
pour moi, ça reste Jokic. Mais
le meilleur joueur de la Ligue.
De la Ligue, pour moi, ça reste Jokic. Mais parce que Shai est mieux entouré, je considère que c'est lui qui apporte le plus dans ce genre de collectif. Quant à tout ça...
Qu'est-ce qu'il peut apporter dans les années à venir?
Il va être MVP plein de fois. Il va être le meilleur score pendant plein de fois. T'as vu la constance qu'il a eu pendant ses playoffs là? Ça a été monstrueux. Je crois qu'il a mis une fois 14 points et c'est tout. Le reste, il est au-dessus de 20 à chaque fois.
Bah, si tu veux le titiller, son adresse à 3 points sur la série.
Justement, il a une marge de progression. Oui. Il fait 2 sur 12 sur la finale, sur le match final, pardon. Et malgré ça, il fait un match incroyable.
Après, on va en parler dans le prochain talk, mais il y a tellement de similitudes avec Kevin Durant sur la constance, la régularité,
pour l'instant, lui, il a trahi personne.
Ça va peut-être venir.
Mais t'as bien dit pour l'instant.
J'ai dit ce que j'avais à dire. Pour l'instant.
Mais bon, il a gagné ce que KD n'a pas fait à OKC. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de se retrouver 15 ans en arrière. On revoit KD, Harden, Westbrook. Sauf que là, c'est un trio avec Shai, avec Jalen Williams, avec Chet. Et qu'eux ont gagné. Et donc, peut-être qu'ils vont rester. Mais OKC va avoir les mêmes problèmes. Comment garder cette équipe?
Ça
va pas poser de problème pour la saison prochaine. Tout le monde est encore sous contrat. Mais quand tu vas devoir signer Chet Holmgren, probablement un gros tarif, tu as
Jalen Williams
aussi. C'est la même draft. Donc là, les deux, tu vas devoir sortir pas loin de 80 millions sur les deux.
Un des deux, non?
Ah, mais lequel?
Chet. Ouais.
Moi, je pense peut-être un peu plus.
Il a fait sur le match 7, il m'a impressionné, Chet. Parce que tu regardes
défensivement.
Défensivement, il était incroyable.
Il m'a beaucoup moins impressionné sur le match 6. Sur le match 6, il est complètement à l'ouest.
Oui, pour moi, c'est que le troisième meilleur joueur de cette équipe sur cette finale. Je mets Jalen Williams devant.
Oui, oui, oui. Mais enfin, tu vois, défensivement, il ne faut pas oublier le boulot de Chet.
Mais défensivement, alors là, pour le coup, on va revenir sur Indiana. Mais il met des comptes sur qui ? Il ne met pas des comptes.
Non, non. En fait, tu te méprends. La défense, ce n'est pas seulement les comptes. Alors oui, mais 5 contre, ce qui est historique, ce n'est jamais arrivé dans une finale dans le même match. 2-1. De 2, il tient les 1 contre 1 comme personne. Je n'ai jamais vu.
Mais il met des comptes sur des... Sur
oui, mais les comptes, c'est pas la défense uniquement, Pierre.
Non,
il
bénéficie quand même d'une raquette imprenable et donc du taf aussi de l'équipe.
Oui, sauf que
quand t'as vu les shoots horribles qu'ils prenaient sur les comptes,
oui, mais
ils ont mangé
la deuxième lame, c'est un vrai boulot aussi.
Hein.
Et je te dis,
sur des shoots horribles, Fred, sur des shoots imbattables.
Ce qui est plus important, Pierre, le plus important, c'est sa capacité à switcher sur tout et à tenir les 1 contre 1. Un grand comme ça qui tient les 1 contre 1, qui ne s'est pas passé. Et c'est un défenseur exceptionnel. J'ai pas peur de le dire, il est exceptionnel.
En termes de dissuasion, c'est. Tu l'as dit, la mobilité. La
mobilité. Tu connais, dis-moi un autre grand, à part Victor, voilà. Capable de switcher sur n'importe qui et pas se faire passer.
Mais il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Ça n'existe pas.
Et c'est justement pourquoi la raison pour laquelle les deux sont souvent comparés. Chez, justement, pour rester sur la défense, pour Chez, on a tendance à quelque chose qui est un peu sous-estimé ou oublié quand on parle du talent et du niveau de Chez, c'est justement sa défense. Parce qu'évidemment, il brille en attaque, il a fait meilleur scoreur, mais le boulot défensif, si OKC a une telle identité défensive, et s'ils sont autant asphyxiants, c'est parce que leur franchise player est potentiellement l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de toute la ligue. Donc ça, c'est un truc qu'on a tendance à...
Contreur, intercepteur, il tient l'homme aussi, c'est monstrueux.
En termes de joueurs two-way, mais il y a un peu de Kawhi Leonard 2019 là-dedans, tu vois, sur le run de playoff.
Ouais,
prouve qu'on peut vraiment...
Enfin, tellement plus élégant que Kawhi quand même, quand tu le vois, quand il monte, comment il est gainé, geste...
Si tu te rappelles Kawhi, les playoffs 2019, il est sacrément élégant, il était inarrêtable, et il y avait de la pureté aussi.
Ils ont à peu près le même charisme, par contre.
Mais moi, j'allais y venir là aussi.
Chez a l'air quand même beaucoup plus sympa que Kawhi.
Oui, mais ils n'ont pas beaucoup. C'est juste personnel. Je trouve qu'ils n'ont pas énorme. Il n'a pas énormément de charisme.
Il est stylé qu'il focalise les regards.
Kawhi a quand même l'air plus bête.
Je sais pas.
Ce sera jamais une superstar, je pense.
Tu penses, toi ?
Non, il n'a pas le charisme. Après, il s'en fout. Peut-être qu'il n'a pas.
Comme Jokic, il s'en fout.
Ouais, mais Jokic, justement, par son caractère si particulier, son côté atypique,
quand il est sur le parquet, tu vois que lui.
Oui, mais ça n'a aucun rapport.
Ah bah si, c'est du charisme.
Non. Non, il est
le
très fort.
Laura, le charisme.
T'as pas besoin d'ouvrir ta gueule pour avoir du charisme.
Bah si. Non. En fait, il faut se montrer, il faut en imposer. Lui, il en impose juste
Zidane
parce que techniquement, c'est le meilleur.
Ouais.
Non.
Alors,
moi, je trouve pas.
Bah, sur un terrain, il n'a pas de charisme.
Moi, je trouve pas. C'est un joueur fantastique qui, techniquement, est incroyable et il est magnifique à voir jouer, Zidane.
Ah non,
je suis d'accord.
Non,
mais
pas d'accord.
Bah, moi, je trouve
C'est-à-dire que le mec, son nom est appelé quand il rentre, quand tous les yeux.
Sur le terrain,
quand l'ambiance ça bruit, tu sens.
Quand il joue, oui, mais quand en dehors et quand il rentre sur le terrain.
En dehors, je suis d'accord, en dehors, pas du tout. Sauf que.
Mais oui, mais ça compte pour avoir du charisme.
Quand du charisme, c'est pas d'aller faire des défilés Louis Vuitton.
Mais c'est une erreur. En fait, on n'est pas dans ce monde-là, on est dans un monde d'image. Maintenant, le charisme, c'est aussi ce que tu dégages
là,
à l'extérieur.
On a quand même. Non, mais là, ça vient de partir en couille ce podcast, puis qu'on a Félix. Qui nous a dit que ça sera pas une superstar et toi qui nous dis que Zidane, Fred n'a pas de charisme.
Non non, j'ai dit qu'il était pas, il avait pas de charisme en dehors.
On peut recommencer à zéro le.
Non non
le
mais j'ai dit qu'il avait pas de charisme en dehors quand il est sur. Terrain. Évidemment qu'il a du charisme.
Quand il va donner la flamme à Raphaël Nadal, il a pas de charisme Zidane. Quand il sort là du podium, c'est pas du charisme.
Non.
Mais c'est n'importe quoi ça.
RMC. Bounce card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah yeah yeah. Basket time. Final seconds.
Bon, c'est pas vrai, on peut pas recommencer à zéro parce qu'on enregistre dans les conditions du direct. Sachez-le, il n'y a jamais de montage, jamais de deuxième prise. Félix, tu dis que Shea ne sera pas une superstar.
Tu sais à qui me fait penser.
Une superstar du niveau de Kobe, c'est-à-dire. C'est ça que
non,
tu veux dire.
Non, mais même au niveau, pour moi, les superstars dans la NBA actuelle, c'est Curry, c'est LeBron, c'est Doncic, c'est tout ça.
Ah ouais.
Tu sais, même Wembanyama est déjà une superstar par tout ce qu'il dégage à côté. C'est l'aura, en fait, qui fonctionne là-dedans. Shea est potentiellement le meilleur joueur de la ligue, mais c'est pas une superstar parce que être superstar dans le sport, c'est au-delà du parquet.
Il est devenu là.
Tu sais à qui me fait penser moi un joueur passé, c'est à Tim Duncan. J'ai l'impression qu'il va faire une carrière potentiellement à Tim Duncan.
Tim Duncan a fini par être une superstar.
Non, Tim Duncan n'est pas une superstar. Tim Duncan, il a 5 titres NBA.
Alors je vais partir. On recommence, s'il te plaît. Tu peux recommencer.
Non, mais vas-y. C'est pas une insulte.
Non, mais c'est pas un genre sexy.
Je suis un fan des Spurs. Tim Duncan, j'ai des posters de lui dans mon enfance. Mais ce n'est pas une star, Tim Duncan.
C'est d'ailleurs, t'as plein de mecs.
T'avais un poster de lui dans ta chambre.
J'avais plus d'un poster de lui dans ma chambre. J'avais Tim Duncan et Fred.
Non,
en fait, je comprends ce qu'il veut dire.
Je suis pas loin
d'être un peu d'accord. En fait, c'est une superstar du jeu, mais c'est pas une flashy super. C'est pas. En fait, ça peut pas être ta tête de gondole. Tu mets pas un Tim Duncan comme tête de gondole.
Il sort pas des frontières du basket.
C'est-à-dire quand t'es un basketteur, tu le vois, tu dis waouh, c'est un joueur incroyable.
Mais vous allez me dire qu'Anthony Edwards sera plus une star que
bien sûr. Oui, c'est pas là.
Alors qu'il a juste un gros waouh
qui sera jamais champion NBA.
Ça fait partie du jeu pour moi, malheureusement.
Oui, mais il sera jamais champion NBA.
Ça, c'est deux choses différentes. Tim Duncan a 5 titres NBA et pour moi le meilleur ailier fort de toute l'histoire de la ligue, je pense.
Profite que Stephen Brown ne soit pas là.
Ouais. Mais c'est une légende du jeu, mais c'est pas une superstar. Tu demandes à plein de mecs au dehors du basket, ils vont connaître tous les mecs qu'on a pu citer.
Mais parce que c'est le caractère et la franchise. Tu vois, si Shea bouge d'OKC dans 2 ans ou 3 ans.
Les Lakers, par exemple.
L'exposition va forcément changer.
T'as vu son caractère quand même, tu vois que c'est.
Oui, mais bon, tu mets Shea aux Lakers. Non, comment tu vas m'expliquer que ça n'a pas été une superstar?
Durant, Harden, Westbrook étaient des superstars à OKC. C'est pas forcément la franchise. Wembanyama est déjà une superstar alors qu'il est à San Antonio.
Oui, parce qu'il y a le physique. Alors que Shea, c'est un guard qui est propre, mais qui se distingue pas par des mensurations, des choses comme ça. C'est purement son jeu qui est léché, qui est magnifique, mais il fait quoi chez un 95 pas plus, hein.
C'est un mec qui parle aux puristes de basket, aux fans de vraiment
mais
de basket.
Moi, je comprends ce que tu veux dire. En gros, tu vas interroger quelqu'un en dehors du basket, il va pas citer chez. Il connaît pas.
Mais vous savez que la génération précédente va s'arrêter aussi à un moment. Hein. Et il ne restera plus que Shea, Anthony Edwards, Victor Wembanyama, et voilà.
Oui.
Donc ils auront la place pour devenir ces superstars-là.
Non, mais il y a une différence entre être un immense sportif dans ton domaine et être reconnu par tout le monde. Et je trouve que je peux comprendre ce qu'il veut dire par rapport à Shea.
Parce qu'il ne fait pas des choses, entre guillemets, il fait des choses exceptionnelles pour un basketteur, mais pas des tomards, des trucs, des bombinettes à la Stephen Curry, ce qui fait que
il a un jeu de puriste, il a quasiment un jeu de puriste et ouais, c'est un vrai problème.
C'est un problème.
Pas pour nous les puristes, nous on adore ça, mais pour se vendre ailleurs, c'est plus compliqué.
Et on l'a vu sur les audiences des finales NBA.
Bryant, il avait un jeu très stylé.
Oui,
quand même.
Mais tomards de ouf.
Oui, mais en fait, il avait des aspérités, Kobe Bryant. Tu vois qu'il parlait mal au gars, tu vois qu'il avait appris le serbe pour parler à un tel, il avait appris telle langue pour. Tu vois, il avait des aspérités. Et les aspérités font de toi une superstar.
Si tout se passe comme prévu, où est-ce qu'il peut finir dans le classement des meilleurs joueurs
de l'histoire?
Ouais.
C'est très difficile à déterminer, mais il est sur
top 25.
Moi, j'aurais dit top 20.
Ouais, top 20.
Mais vraiment, si tout se passe comme prévu, oui, s'il continue à performer comme il le fait actuellement,
etc. Il va probablement être pas loin d'avoir 3 titres MVP de saison régulière dans sa carrière. Ouais. Après, c'est les titres NBA, ça j'ai plus un doute.
Il a quand même un problème sur le titre de MVP, c'est qu'il y a Nikola Jokic. Hein.
Oui, mais Jokic n'est pas éternel.
Oh, je suis d'accord, mais il lui reste quelques années encore, Nikola Jokic. Donc il va être en concurrence avec lui. Donc sur leur prime, entre guillemets, aux deux... Ils vont se chevaucher un petit peu quand même.
Et puis t'as des mecs qui arrivent fort aussi, justement. On a parlé d'Anthony Edwards, de Wembanyama, de mecs qui vont rentrer dans la course au bout d'un moment.
Je pense qu'Anthony Edwards sera jamais MVP de la saison.
Moi, je pense que Jason Tatum ne sera jamais MVP de la saison. Mais après, ça, c'est une opinion personnelle.
Bah, l'année prochaine, il va avoir.
On ne tire pas sur une ambulance en panne, il est blessé, monsieur Vex. Un peu de respect.
Non, mais honnêtement, je sais que la dernière fois que j'ai dit ça, vous m'avez pris un peu de haut, mais Tatum et Haliburton, je suis très inquiet. C'est des blessures de merde, ça. Hein. Ça, tu sais pas
après,
du tout comment les mecs vont revenir.
Surtout dans une carrière.
Ils sont pas vieux et c'est un avantage quand même. Pour revenir, c'est un avantage.
KD est revenu, il l'a eu à 30 ans.
Avant de les voir performer de nouveau au plus haut niveau et à leur niveau, je vais attendre.
Moi, je leur souhaite en tout cas, vraiment.
Ah bah, on espère, hein, parce que là, ça fait quand même deux coups durs. Hein.
Oui.
Pour la saison prochaine, c'est un peu triste.
Oui, clairement.
Nous allons donc enchaîner avec la partie historique sur le Thunder et vous allez désigner le meilleur joueur de l'histoire.
Please welcome the 2013-14 Kia NBA Most Valuable Player, Kevin Durant.
Durant right around Chandler. Oh, come on! Oh, wow!
Of the 2017 NBA Most Valuable Player Award is Russell Westbrook.
Westbrook out of there with it for the Thunder. Westbrook down the lane for the throwdown. With his 42nd triple-double, Russell Westbrook has broken the single-season record established more than a half century ago.
Alors, quel est le meilleur joueur de l'histoire du Thunder? Histoire courte et récente, hein, on va pas prendre les Seattle Supersonics, puisque c'est la même franchise, on le rappelle, qui a déménagé en 2008, qui a été renommée. Et on va considérer donc que c'est le premier titre de cette franchise qui a déjà vu passer de très grands joueurs.
Il n'y aurait pas eu de débat si tu avais fait Sonics et OKC, qui est le meilleur joueur. Hein. C'est Gary Payton.
Sean Kemp.
Oh, Gary Payton.
J'aurais dit Sean Kemp, mais...
On l'a fait cette saison, je crois, le 5 majeur de Sonics Thunder. Si, si, on l'a fait.
Moi, pour moi, tu mets Gary Payton, je me mets largement devant Sean Kemp. Hein.
Ok.
Pour la constance.
Est-ce que tu le mets devant KD et Shai?
Ah oui, je mets toujours Gary Payton devant. Hein.
Alors, quel est le meilleur joueur de l'histoire du Thunder? Nous allons démarrer par Frédéric Weiss.
Eh bien, je vais répéter mes arguments, les arguments que j'ai cités tout à l'heure. On vient de voir un mec capable d'être MVP, MVP des finales, meilleur scoreur de la saison, MVP des finales de conférence, ce qui n'existait pas avant, qui le fait rentrer dans un cercle très fermé de seulement 4 joueurs. Il a amené cette équipe à être la quatrième performance en termes de victoire sur une saison d'une équipe. Il a amené à Oklahoma City, une ville qui est à peine plus grande que Limoges, où il y a des courses de tracteurs, il n'y a pas de sport majeur là-bas. Il a amené un titre là-bas. Il est pour l'instant fidèle à son équipe. Il aime ses coéquipiers, il en parle toujours très très bien, il défend dur, il attaque très bien, il est capable de contrer, d'intercepter, de marquer. Alors effectivement, il a une petite lacune sur le shoot à 3 points, mais ça va être peaufiné ça. C'est un joueur juste incroyable, et vous allez me comparer à qui ? À KD qui est un traître. Et donc si on demande aux fans
mais qui est une superstar
c'est le joueur
donc j'ai pas le droit de terminer mon argumentaire, vous allez m'interrompre. Donc vous allez me parler de KD qui est un traître. Allez demander aux supporters de KC ce qu'ils pensent de KD. Je suis pas sûr qu'ils le nomment comme le meilleur joueur de la franchise, vraiment pas. Ensuite parlons de Westbrook. Oui, il a été MVP et meilleur score une saison, et c'est quoi leur meilleure performance? Finale. Ils n'ont pas gagné de titre.
T'as vu contre qui ils ont joué?
Mais on s'en fout contre qui. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est as-tu réussi à ramener dans une franchise qui est jeune, qui a besoin de gagner, qui n'a pas d'autre de sport majeur là-bas, un titre? Non. Donc vous me parlez de deux gars très sympas, que j'adore. J'ai beaucoup d'affection pour Russell Westbrook en plus, parce que 11 saisons là-bas, cette fidélité, cette envie de bien jouer... Tu ne peux pas comparer à quelqu'un qui vient d'apporter un titre à cette franchise, avec en plus ces statistiques qui sont juste monstrueuses.
Oui, alors après, calme-toi quand même sur Kevin Durant. On parle d'un
le
mec qui jusqu'ici... Oui, mais après, ouais, ça ne fait pas de toi un mauvais joueur.
Mais non, sauf que... Qu'est-ce que c'est un bon joueur? Un bon joueur, c'est quelqu'un qui performe sur le terrain. KD, il remplit largement cette case. C'est un joueur fantastique, exceptionnel. Ensuite, c'est quelqu'un qui est aimé par son public. Est-ce que le public d'OKC aime Kevin Durant?
Attends.
Mais je pense que s'il revient, il a applaudi.
C'est quoi ton critère là?
Son critère, c'est qu'il a trahi OKC pour aller à Sydney ailleurs. Bon, c'est pas compliqué ça.
Trahi, c'est...
Mais bien sûr qu'il a trahi. Tu te rappelles comment c'est passé?
Moi, je suis un peu d'accord avec Fred. Je trouve que c'est dur de se mettre dans ce débat-là, vu ce qu'il a fait à la franchise. C'est compliqué.
Mais bien sûr que non.
C'est compliqué.
Ouais, le premier problème de OKC, c'est d'avoir préféré prolonger Serge Ibaka que James Harden. Il est là le problème, c'est d'avoir cassé ce trio qui, au moins, je pense, aurait pu t'amener plus de résultats.
À cette époque-là, tu n'aurais pas hésité?
Même si à l'époque, c'est toujours dur de refaire l'histoire, on peut comprendre pourquoi ils l'ont fait à l'époque.
Bah, il fallait des big men qui protégeaient le cercle, et Ibaka était tout à fait dans ça.
Oui, mais je pense que c'était.
C'était une erreur.
Mieux
maintenant,
de garder James Harden.
Alors ça, maintenant, je le fais pas non plus, mais à l'époque.
Donc, moi, je choisis Kevin Durant parce que c'est
parce
la constance.
Parce qu'il aime les traîtres. Il aime ceux qui trahissent leur équipe.
Shai sur la voie. Quand on regarde la moyenne de points par match, KD, c'est sur ses 8 saisons à OKC, 27, points. Et Shai est à la même moyenne.
Points, c'est bien 27, quoi.
Pardon, 27,4 points.
Tu vois, en plus, tu prends des arguments, on comprend rien.
27,4 points. Shai sur la même moyenne, sauf que KD l'a fait sur 8 ans. KD, c'est 4 fois meilleur marqueur de la Ligue.
Combien de fois MVP
2010, 2011, 2012, 2014.
Mais combien de
MVP 2014, deux fois derrière LeBron. Quand je regarde KD, qui l'a eu en face? Qui a empêché KD d'être champion avec OKC? Ce sont les Spurs, avec Kawhi, avec Tim Duncan,
c'est la faute
avec
de Shai alors. Vraiment, je suis désolé pour lui. Hein.
Ce sont les Warriors, avec... Stephen Curry,
les Warriors
avec qu'il a rejoint
en trahissant
c'est le Big Three de Miami avec cette défaite en finale. Regarde qui le OKC
et Dallas, ils ont gagné contre qui? Dallas, ils ont gagné contre qui? Je ne me rappelle plus.
La première année du Big Three, qui n'est pas le même, c'est
bien
une
sûr,
meilleure équipe derrière.
Ouais.
Donc franchement, il faut être un peu mesuré et se rendre compte que KD a été barré par des équipes monumentales. Indiana, est-ce que c'est une équipe monumentale? Non, j'attends de voir que Shai puisse battre un Boston, une grosse équipe à l'Est, par exemple, qui réédite cette performance. Franchement, KD, c'est pour moi encore le meilleur joueur de l'histoire, de la jeune histoire du Thunder par rapport à tout ce qu'il a apporté.
Il a apporté quoi?
Des points. Il a mis OKC sur la carte de la NBA.
Vous êtes en train de m'expliquer qu'il a apporté beaucoup de points de moyenne. 27 points, vers 7,2 points de moyenne.
Mais il a amené cette jeune équipe qui sortait de Seattle où ils avaient fait la pire saison de l'histoire des Sonics avant, et il a mis OKC.
Mais qui est en train de dire que c'est pas un très grand joueur, Kelly?
Ah non, mais les arguments d'Arnaud sont excellents pour le traître quand même, hein. Non, je trouve que la démonstration.
En fait, tu as entendu ce qu'il vient d'expliquer. Il vient d'expliquer que quand
Shai
il a joué contre Golden State,
il a eu la même adversité qu'il le prend en considération.
D'accord. Et donc, effectivement, dans ce cas, tu dis que c'est normal que KD, à la fin, il perd contre Golden State et il se dit, je vais aller gagner Golden State. Non, franchement,
ouais, c'est pas ça qu'on juge. On juge ce qu'il a fait au KC.
Il faut aussi juger.
On change pas le passé.
Attendez, en fait, on juge l'aura quand ça vous arrange, en fait.
Non, mais parce que c'est vrai qu'on parle du meilleur joueur de la franchise. Donc, c'est vrai que le fait d'être.
Et regarde ce qu'il a réussi à accomplir.
Pour les gagner ailleurs, c'est pas des arguments pour, quand même. Hein. C'est plutôt dans la colonne des billes.
Moi, ce qu'il a accompli avec ce contexte de la conférence Ouest.
Alors là, on a quand même de beaux arguments face à face et nous avons un troisième larron. Pour une fois, on a le droit de choisir la même réponse hein, dans le débat historique, puisque c'est un débat dans la partie historique. Félix, as-tu choisi l'un des deux?
Excellente passe d'armes entre Fred et Arnaud, mais en fait, je suis désolé, messieurs, vous vous trompez de débat. Il y en a un troisième qui va arbitrer tout ça, qui va mettre tout le monde d'accord. C'est évidemment, pour moi, Russell Westbrook. Je pense que rejoint Fred, Shai, et je crois que c'est Arnaud qui a dit ça, est sur le chemin, sur la voie. Shai est potentiellement, en termes de niveau pur et dur de basket des deux côtés du terrain, niveau intrinsèque, le meilleur joueur de l'histoire. Mais si on prend le côté, la globalité, le GOAT de la franchise, pour moi, c'est évidemment Russell Westbrook.
C'est ton côté romantique, ça.
Mais je suis un romantique.
T'aimes les beaux perdants. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ça aussi.
Parce que, en fait, c'est.
Cholet touch.
Je pense qu'il.
Mais oui, c'est ça, t'es cholet.
Mais bien sûr, on est des romantiques, nous, évidemment.
Tu aimes quand ça gagne pas, mais que ça joue bien.
Ne te moque pas de cholet, parce que tu as quand même parlé de Limoges.
Ah, mais oui, alors nous, on gagne, par contre. Tu peux me dire ce que tu veux, mais Limoges, on a gagné.
Non, je parlais de Limoges qui est le OKC de France. OKC, ça sera la troisième ville de France. Oklahoma City, pardon. Donc calme-toi avec ton Limoges.
Oui, mais il faut pas. Oui, alors juste, c'est une proportion par rapport aux autres villes de là-bas.
Tout à fait.
Donc.
Alors, sur la proportion, je peux pas te contrer parce que j'ai vérifié pendant tes arguments fatigants là.
Ah oui, fatigant, je suis pas d'accord avec toi.
Du coup, j'ai regardé sur Wikipédia. Ouais, OKC, 28e ville de France, des États-Unis, Limoges, 29e ville de France.
Ben donc, c'est pareil. Merci beaucoup.
Voilà.
Merci. En fait, tu as arrêté tout pour dire que j'avais raison. Mais ça me fait plaisir.
Et en plus, t'as manqué de respect à Cholet alors qu'il y a quelques jours, on a fêté les 15 ans du titre de champion de France. Et ça, c'était beau.
Je sais pas, nous, il y a quelques jours, on a fêté le triplé 2000, 25 ans. Mais bon, après, un titre de champion, c'est bien, mais un triplé, c'est mieux.
Donc, Russell Westbrook, parce que je vois qu'on essaie de me dévier de la route parce que voilà,
parce qu'elle est pas bonne.
Si, elle est très bonne. C'est l'identité, il incarne l'image et l'identité d'OKC. C'est le mec, on a parlé de fidélité et de non-trahison, c'est le mec qui est resté quand tout le monde s'est barré. Harden, c'est pas de sa faute. Quand Durant a décidé de rejoindre une équipe qui était en 73-9 la saison d'avant, celui qui est resté, qui a porté la franchise sur ses épaules, c'est Russell Westbrook. Russell Westbrook, il a ce titre de MVP de saison régulière en 2017.
Et meilleur score.
Meilleur scoreur. Après une saison historique en termes. Mais normal, t'as vu l'équipe qu'il avait autour. Il a porté sur ses épaules.
Voilà, ça y est, maintenant on va trouver des circonstances atténuantes.
Il a porté sur ses épaules.
Mais il a porté son équipe aussi.
Oui, mais
Ne commence pas à dire des mais. Déjà, quand tu commences à dire des mais, c'est que t'es à court d'arguments. Donc je suis en train de te dire que tu me dis que Russell Westbrook a porté sur ses épaules l'équipe. Shai Gilgeous-Alexander a porté sur ses épaules l'équipe en gagnant.
Et je te parle aussi
de Westbrook avec Jalen Williams, Chetalgrim.
L'incarnation de l'identité, déjà il y a les chiffres londoniens, il y a l'incarnation de l'identité. Quand je pense que tu demandes à un fan d'OKC qui est là depuis le déménagement de la franchise en 2007,
le numéro 2, ça sera Russell Westbrook tout.
Non, je pense que là tu demandes à quelqu'un qui est depuis 2007 qui suit cette franchise depuis qu'elle est arrivée à OKC, il va te dire quel est ton GOAT, le joueur auquel tu t'identifies. Ils vont te dire Russell Westbrook.
Celui qui m'a ramené un titre, bien sûr, la culture
de l'instant. Après le débat, c'est le plus fort. Le plus aimé.
D'accord.
Le débat, c'est le
plus grand joueur.
C'est le
GOAT. Oui, mais depuis deux jours, tu demandes
le plus aimé. C'est la définition du GOAT.
Le plus aimé, c'est certainement Russell Westbrook. Le meilleur joueur, c'est Shai Gilgeous-Alexander.
Qui incarne la franchise, c'est Russell Westbrook.
Oui, mais ça veut dire le meilleur joueur.
Sauf pour les fans d'OKC qui ont commencé à suivre l'équipe depuis le 15 mai.
Là, tu prends un argument qui va contre toi, Fred, parce que si tu parles du joueur pur, je pense que KD est au-dessus quand même.
En fait, Fred a pas compris le débat.
Mais bien sûr qu'il est au-dessus. Sauf que comme c'est un traître et que personne n'aime, il ne fait pas partie de.
Qui est le meilleur joueur de l'histoire de Cleveland?
Mais LeBron James.
LeBron.
Oui, mais il a perdu, il les a pas trahis pour aller à Miami.
Il est revenu.
Oui, mais
il est revenu.
Il est revenu.
Attends. Merci pour ce contre-argument parce qu'il est revenu pour gagner avec. Oui.
Donc on doit le juger qu'après. Mais ben, si pardonné.
Mais KD, justement, il vient d'être tradé à.
Non, t'as pas compris le débat.
Ah non, mince, il va.
C'est le GOAT. C'est pour toi, tu as dit, c'est le GOAT selon les fans de KC. Nous, on est objectif.
Non, non, non.
En fait, pour
qui est le meilleur joueur de l'histoire de Miami?
Dwayne Wade.
Le GOAT, c'est Dwayne Wade.
Dwayne Wade, ah bah alors du coup, c'est Westbrook. Alors.
Voilà.
Mais non, ça n'a rien à voir.
Merci, Pierre.
Il a trahi pour
aller à Chicago.
Non, juste. Tu sais comment tu c'est, en fait, c'est n'importe quoi. Tu sais que Dwayne Wade, il a gagné un titre sans LeBron?
Mais avec Shaq.
Oui, d'accord.
Non, mais tu ne peux pas comparer avec Russell Westbrook qui, malgré tout ce que vous êtes en train de me dire, n'a jamais gagné de titre.
Mais comment, souvent, tu as vu qu'il a porté l'équipe en solo, reprend l'équipe. L'équipe, quand il est MVP et qu'il les emmène 5e, reprend l'équipe autour de lui.
Peu importe que tu te souviens, c'est dans un état où tu n'as jamais gagné.
Limite, l'option 2, c'est André Robertson. André Robertson, il y a 3 mois, il est à Cholet.
Au Lakers, ça serait beaucoup. Ah ben, non, peut-être pas à Cholet, mais à Limoges, admettons. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas.
André Robertson a vraiment été à Cholet en début de saison, pour le coup.
En fait. Les titres, c'est hyper important dans une franchise qui n'en a jamais gagné. Ok, si, n'en a jamais gagné. Donc, forcément, c'est plus marquant. Et quand tu fais une saison où il y a seulement 4 mecs qui sont avec toi, enfin, 3 mecs qui sont avec toi, il y a Michael Jordan, Shaq et Abdul-Jabbar. Tu es dans ce quatuor incroyable.
Je pense que tout le monde soit d'accord, il faut mettre Nick Collison.
Il y a la longévité qui rentre en compte aussi. Je t'avoue. C'est pour ça que j'ai du mal, parce que la longévité.
Je vais te donner un dernier argument. Fred, t'aurais pu y aller. C'est que Kevin Durant, après être parti de Golden State, ça a été un fiasco partout où il est passé. Alors tous les projets.
C'était le débat qu'on avait la semaine dernière.
Et il y en a un nouveau qui arrive, et on va quand même en dire un mot parce que c'est l'actualité brûlante là de la NBA. Direction Houston. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous comprenez le move? Est-ce que c'est un bon move?
Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ouais. Franchement, quand on voyait la shortlist de Kevin Durant, ce qu'il avait donné, il y avait Miami, San Antonio et Houston. On en a parlé la semaine dernière. Moi, j'avais très peur que San Antonio casse son roster et envoie des jeunes ou des picks de draft contre Durant parce que voilà, Durant, il est quand même bon, sur une fin de carrière. Il va demander très, très cher pour son prochain contrat. Mmh. Mais je pense que dans la timeline de Houston, c'est le bon move. C'est celui qu'il fallait faire parce que Houston était deuxième de saison régulière. Houston, tu sentais en playoff qu'il leur manquait ce petit truc pour passer sur au step supérieur et pour devenir des vrais candidats au titre. Là, tu vas chercher un mec qui va devenir ta première option offensive, qui va pouvoir te mettre des paniers et buckets dans tous les sens, tout en gardant ton identité défensive, parce qu'en fait, t'as quasiment envoyé personne, à part Dylan Brooks, mais bon, il reste quand même énormément de...
Ça se retrouve un défenseur.
Pour penser à ça, là, sans
exactement.
Problème.
Donc, super move, je trouve.
Est-ce que ça veut pas dire aussi que Houston n'a pas tant de considération que ça pour Jalen Green?
Houston, surtout...
Ils ont raison de pas en avoir pour Jalen Green.
Surtout, se dit, on a...
C'était quand même le mec un peu...
Mais non, mais que tu compares Durant et Jalen Green,
pas le numéro 1, parce qu'il y a
3 mondes d'écart entre les deux.
C'était quand même leur gars.
Tu penses qu'ils ont le même âge?
Mais non.
Mais donc
mais non, on est dans une équipe qui veut gagner tout de suite.
Oui, pourquoi ils veulent gagner tout de suite? Ils ont des jeunes, pourquoi tu veux pas construire?
Parce qu'ils étaient
petit à petit.
Ils ont fini deuxième à l'Ouest cette saison.
Après, je suis d'accord avec vous, hein. Ça fait rêver tout le monde. Quand t'as KD dans ton équipe, ça fait rêver tout le monde. Parce que défensivement, il va pouvoir faire des choses. En plus, dans ce roster de Houston, il va être hyper intéressant. Offensivement, t'as un mec qui peut tuer tout le monde à n'importe quel moment. Ça fait rêver. Sauf que, vous l'avez dit tout à l'heure, ça a jamais marché. À part à Golden State, ça a jamais marché.
Après, il y a eu pas mal de malchance, beaucoup de blessures.
Mais je suis d'accord.
Mais ça n'a jamais marché malgré tout.
Le fait est que ça n'a pas marché. Alors, il y a effectivement des circonstances atténuantes. Mais là, je suis en train de dire, il y a un Jalen Green qui effectivement rate ses playoffs, mais qui est en pleine progression. Mmh. On l'a vu sur toute la saison, qui est encore jeune, sur lequel tu peux construire. Moi, Dylan Brooks, tu peux le donner, son problème. Je me répète, Amen Thompson peut compenser ça, son problème. Et ton tour de draft aussi. Mais il y a quand même une vraie équipe. Mais moi, je me dis que là, d'un seul coup, leur fenêtre qui pouvait s'ouvrir un peu en grand du côté de Houston en disant on va faire progresser tout le monde et dans 2-3 ans, on sera bien et on aura une fenêtre de 3-4 ans. Là, ils ont 2 ans. Ils ont 2 ans pour gagner. Mmh. Donc ils ont raccourci leur fenêtre. Je dis pas que leur équipe n'a pas meilleur.
Sachant qu'ils vont se cogner au KC en face quand même.
Même voilà, si
Je demande à voir sur le papier. C'est magnifique, mais on a déjà vu des équipes
même
magnifiques.
Même si, Jalen Green, ok, guard très talentueux. Enfin, ça fait 4 saisons qu'il shoot à 42%. À 3 points, c'est bien, mais c'est quand même un mec qui a l'habitude d'arroser. Et là, tu le remplaces par l'un des shooters les plus fiables de l'histoire.
À l'instant T, Arnaud, il n'y a pas photo. Tu ne peux pas comparer Jalen Green et KD. Évidemment, tu ne peux pas.
Pour moi, Jalen Green, ce n'était pas le meilleur des jeunes assets de Houston. Ahmed Thompson est là-haut.
Ah, il a pris Seth Goon, Jabari
Smith, Tari Eason que j'adore. Tari Shepard, il ne faut pas l'oublier. On en parlait beaucoup l'année dernière, le rookie. Est-ce qu'il va pouvoir s'affirmer avec plus de place pour son année sophomore? On y croit.
J'ai beaucoup de doutes, moi, sur Shepard.
Et alors après, il y a la question de Fred
aussi qui était très important cette saison.
Ça, c'est sûr, je n'ai pas vu. Je sais qu'il est en fin de contrat.
Bah non, en tout cas, tu le trades pas, quoi. Je veux dire, enfin, pour l'instant, il est là. Potentiellement, tu te le gardes.
Très bien. Ça sera une des attractions de la saison prochaine. Donc, KD à Houston. Et
bravo Phoenix, hein. Parce que ça, sur le trade, ils ont donc converti Cam Johnson, Michael Bridges. Je crois que c'est Jake Roeder. 5 tours de draft en Jalen Green, Dylan Brooks et un premier tour. Ça, c'est beau, hein. En même pas quoi.
Mais au moins à la draft, ils peuvent y aller.
Après, il fallait qu'ils fassent quelque chose parce que c'était tellement cata cette année.
Désaveu total.
Il y a quand même toujours Devin Booker, hein. Faut pas l'oublier.
Et Bradley Beal.
Devin Booker, Bradley Beal, Jalen Green qui joue exactement au même poste.
Non, mais ça, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une franchise qui a quand même encore un joyau parce qu'il a fait peut-être une saison qui est passée dans l'ombre. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres choses. Ça reste un des meilleurs joueurs de la campagne olympique. C'est quand même un joueur fantastique.
Oui, c'est un joueur fantastique.
Un des meilleurs joueurs de la Ligue. Mais ça, c'est le syndrome de des franchises rachetées par des mecs qui sont blindés et qui font strictement n'importe quoi.
Ils ont fait n'importe quoi.
Ouais. Allez, on va voir si vous faites n'importe quoi, comme d'habitude dans le quiz.
Le nouveau spectacle de Mesmer avec RMC.
Je vais vous faire la question où vous devez être d'accord avec moi pour avoir le point.
Oh putain, ah, putain, comment ?
Osez l'expérience où maîtrise de soi et fascination se rencontrent.
Tu peux me séparer ?
T'as trouvé ça où, toi ?
Mais qu'est-ce que tu me fais chier, toi ? Voici la question Mesmer.
Avec RMC.
C'est bon, ça.
Au compte de trois. Vos paupières seront lourdes.
Le putain de Fred et Stephen, il sort tellement du cœur, c'est magique.
Alors, il y en aura une qui va passer un cap encore différent là tout à l'heure, en fin de quiz. Nous allons démarrer par le blind test. Comme d'habitude, le thème du blind test, c'est la jeunesse et ça va aller très vite. C'est que des morceaux assez connus, voire très, très connus.
Britney Spears.
C'est pour Félix. Bravo, allez, on enchaîne.
Comment tu connais ces génies, ça ?
Jordi pour Arnaud. Magnifique, on enchaîne.
Michael Jackson.
Jackson 5.
Jackson 5.
Félix.
Je me suis rattrapé.
D'ailleurs, la vraie réponse est The Jacksons. Jackson 5, il me semble que c'est le nom d'un album.
Je suis pas sûr.
Le groupe, c'est The Jacksons.
Moi, j'ai dit Vanessa Paradis. Hein.
Oui. Bravo, on t'enlève un point. Ah, vous connaissez ça?
C'est
ta jeunesse, ça, Fred.
Mais en plus, c'est ce que je...
Alors, les autres, ça va être plus dur.
Pas John Lennon, non?
MGMT.
Oui, c'est bon, on a zappé Alphaville. Ah, excusez-moi.
Mais je l'ai dit 14 fois.
Excuse-moi, Fred, je n'ai pas du tout.
GMGMT, non, c'est.
MGMT, c'est bon. Donc, ça fait 2 points pour Félix, 2 points pour Arnaud, 1 pour Fred. Et on a fait le tour? On a fini le bain.
C'est allé vite. Hein.
Ah ouais, tu nous as arrosé de ce moment.
C'est mieux. Alphaville, personne n'a.
Si.
Qui t'as dit?
Mais c'est moi, oui.
Excuse-moi.
Mais personne ne m'écoute vraiment ici.
Moi, non, j'avais en entendu,
c'est
Fred.
C'est bizarre parce que t'as dit je l'ai pas, je vais pas retrouver.
Ben, j'ai retrouvé. Hey, alors, je suis un mec comme ça, moi.
Allez, on démarre. Sur les questions basket, OK, ici, tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud, c'est le 7e vainqueur consécutif différent. OK, c'était pas arrivé, ça n'était jamais arrivé
dans
l'histoire de la NBA.
Je suis parti avant, j'ai dit Golden State avant.
Mais c'est quoi la question ?
La question, c'était, avant cette série, qui était le champion ? C'était Golden State.
Je l'ai dit avant.
Je ne suis pas sûr.
Si.
Mais je suis pas sûr.
Je l'ai dit avant.
Je demande à voir.
Je demande à entendre.
Moi, je suis prêt à parier.
Moi, je vous donne un demi-point chacun. Ensuite, donc la question était, qui était le précédent vainqueur ? C'était bien Golden State. Mais avant les Warriors,
Miami !
Quel était le dernier back-to-back ? Là, c'est Miami et c'est pour Arnaud. Ils sont bons, hein, Félix ?
Ouais, ils sont bons, t'as même pas le temps de finir la question. Moi, je t'écoute religieusement. Et...
En fait, on fait le mesmer, mais à l'envers, tu vois. On devine les questions.
Qui a déclaré ? On reviendra.
Rick Carlisle,
c'est Fred, bravo. Et qui a déclaré ? Jalen Williams, je le vois finir meilleur
Scottie
que moi.
Pippen.
Mark Daniels.
Scottie Pippen, ils sont chauds aujourd'hui. Hein. Peut-être que c'est les questions qui sont faciles. 3 points pour
nous
Félix.
Nous sommes bons, tu peux le dire.
3 points et demi pour Arnaud. Et 2 points et demi pour Fred, donc c'est très serré. Tiens, une autre actualité dans les mock drafts. Quel est le joueur français annoncé
Noé
le plus
haut? Noé Sengue.
Annoncé le plus haut?
Noé Sengue.
Ouais.
Ah bon?
Nolan Traoré?
Non, Noé Traoré, il est plus loin.
Et oui, je sais.
J'ai vu Maxime Reynaud, moi.
Non, Maxime Reynaud, il est 25, Sengue, je crois.
Ah mince. Ouais. Alors, c'est qui a dit Noé Sengue?
Félix.
C'est Félix, bravo.
Donc, d'ailleurs, dites-nous un mot podcast...
Joueur de Ulm. poste 4, joueur de Hull, mais je crois qu'il va, il va pouvoir nous l'expliquer mieux, Noé Sengue.
On a Noé série à écouter.
Oui, on a fait tout avec Kylian Vérov et Thomas Breton du podcast Envergure, qui est des spécialistes du scouting. On a fait 5 podcasts différents pour présenter les 5 Français attendus au premier tour de la draft, donc dans 2 jours. Donc allez écouter ça si vous voulez tout connaître.
Donc c'est pour ça que t'avais la bonne réponse. 4 points pour Félix, 3,5 pour Arnaud, 2,5 pour Fred. Quel Français est devenu champion NBA 2025?
Ousmane Dieng.
Ousmane Dieng, Arnaud, excellent.
Je t'ai entendu partir. Et alors là... Je ne pars même plus parce que je t'ai entendu.
On va faire une question un peu différente des autres. Avant Ousmane Dieng, 6 Français sont champions NBA. Vous allez me les donner dans l'ordre chronologique, un par un.
Oh, t'es dur.
Dans l'ordre chronologique, un par un. Et c'est Fred qui a le moins de points.
Oh, donc dans l'ordre Fred, chronologique.
Mais t'as un nom à me donner. Hein. Les autres, c'est suivre ensuite. T'as le premier Français champion NBA à me donner.
Ah, c'est-à-dire on parle dans le passé et
voilà,
on arrive
dans le passé,
d'accord.
Dans l'ordre chronologique. Exactement.
Oui,
non,
mais il faut que je donne le premier il y a 6 ans.
Le premier il y a 6 ans.
Bah, c'est le premier des 6.
Bon, le premier des 6, absolument.
Oui, mais donc je ne l'ai pas, moi j'ai le dernier.
Bien sûr que tu l'as, le premier des 6.
Moi je viens.
Ah, Tony Parker.
Voilà. Ensuite, on est sur Félix.
Rodrigue Beaubois.
Rodrigue Beaubois, c'est bon, bravo. En 2011, Arnaud.
Boris Diaw.
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Fred, dans l'ordre chronologique, on est en 2011.
En 2011, Yann Maïmi.
Yann Maïmi, c'est oui. Bon, bravo Fred. 2011, il y en avait 2. Et les 2, évidemment, auraient pu être donnés dans n'importe quel ordre. On enchaîne avec Félix.
Après, c'est Boris Diaw.
Non.
Non.
Ah, oui, je l'ai.
Arnaud Valadon.
Ah, oui.
Attends, donc Dallas, Miami... Encore à Dallas?
Non.
Mais dis rien, Fred.
Oui, il me fait oui.
Fred, tu vas remonter.
Si j'avais,
Tu vas remonter grâce à cette question. Hein. Tu vas tous les avoir. Tu l'as pas, Arnaud?
Non, j'ai pas.
J'ai Ronny Turiaf.
Ronny
oui,
Turiaf, 2012. Ronny. Ça fait un point de plus pour Fred. Félix.
Boris Diaw.
Boris Diaw, je fais bon.
La merde.
En 2014.
J'avais oublié qu'il était là.
Arnaud.
Donc là, on est combien? C'est
le dernier.
Axel Toupane.
Ouais, c'est
voilà. Alors, Axel Toupane, c'est très bien. Fred a 5,5 points. Arnaud, 5,5 points. Félix a 6 points. C'est extrêmement serré. Et nous allons enchaîner avec une question. Shai ou KD? Shai ou KD?
T'aurais pu faire Shadé, la chanteuse.
Les deux. Ah, j'aurais pu faire ça. Hein.
Shai, Shadé.
Je regrette, tu vois. Tu aurais dû me le souffler.
Ou les deux.
Les deux ou aucun des deux.
Attends, donc Shai...
Ou KD.
Ou KD, d'accord.
Alors, qui a le moins de points? Ben, ça se joue entre Arnaud et Fred. Donc, Arnaud, tu vas démarrer. Ma moyenne de points en play-off a toujours dépassé les 20 points en carrière. Hein. Chaque campagne de play-off, plus de 20 points. Shai, KD, les deux, aucun des deux.
Les deux?
C'est KD, seulement KD. Il l'a fait 13 fois, le coquin.
Eh oui.
Mais
c'est pas le meilleur joueur de l'histoire de Kishi.
Les deux premières campagnes de playoff de Shai sont moins bonnes.
Il n'y a toujours pas de titre.
Fred, cette c'est saison, moi. Je suis à plus de 2,5 blocs plus interception par match.
Ça, c'est Shai.
C'est Shai qui est à 2,7. KD est à 2. 1,2 contre et 0,8 interception pour KD, ce qui est quand même très correct. Fred, c'est un point de plus. Félix a OK, si j'ai toujours été au-dessus des 25 points de moyenne par saison.
Il n'y a aucun des deux dans tes propositions?
Il n'y a aucun des deux.
Aucun des deux?
KD.
KD, il a toujours fait 25 points en Casey.
Toujours au moins 25
points
de moyenne.
Ah, mais oui, parce que je pense que à Seattle, il a moins. Ah ouais.
Il est rookie à Seattle, je crois.
Non, mais les stats. Moi, justement, je pensais que c'était ça,
KD,
le piège.
La fameuse régularité soulignée par Arnaud, c'est impressionnant.
Non, mais moi, je trouve ça hyper impressionnant d'être régulier. Hein. Après, je préfère gagner les titres, mais régulier, c'est bien. Hein.
On enchaîne toujours.
Donc, toi, tu préfères être nu, tu préfères avoir une carrière moyenne et avoir un titre.
Moyenne,
moyenne MVP, MVP,
non plus,
les finales,
hein.
Les meilleurs scores de la Ligue.
Moyenne. Moyenne. c'est toujours à Arnaud.
Oui.
Arnaud, ma mère a participé aux Jeux Olympiques.
C'est Shai.
C'est Shai, absolument. Sa mère, Charmaine, a fait le 400 mètres aux Jeux de 92.
Je ne sais plus avec quelle nationalité. Je crois que ce n'est pas avec le Canada. Hein.
Non, c'est pas le Canada ni les Bahamas. C'est des îles.
Oui,
mais j'ai oublié
dans les Antilles.
J'ai oublié lesquelles. Donc, un point pour Arnaud, malgré tout. Fred, j'étais fan des Toronto Raptors avant de jouer en NBA. Ah.
C'est pas ça.
Tu dis KD, je suis mort.
Bravo. Alors là, bravo.
Tu sais pourquoi ? Parce qu'on a entendu beaucoup la rumeur qu'il allait à Toronto. Il disait qu'il adorait. Donc je me disais
Bravo, parce que c'était le piège. Shea, évidemment, en étant canadien. Mais KD aussi. La source, c'est collegeinsider.com. J'ai pas inventé. Et bravo. Enfin, Félix, j'ai les bras aussi longs que les jambes.
C'est pas Félix.
C'est pas Félix, ça, c'est sûr.
Après, j'ai des petites jambes et des petits bras, du coup.
Remarque, oui. T'as peut-être plus de chance que moi.
C'est proportionnel, en fait, tu vois. Les bras. Attends, c'est... Répète l'intitulé. Aussi long.
J'ai les bras aussi longs que les jambes. Chez, KD, les deux ou aucun des deux.
Chez.
Non, aucun des deux. Personne n'a les bras plus longs que les jambes, Félix.
Donc, tu t'imaginerais quand même.
Je sais pas, il a une super envergure quand même, Chez, tu vois.
Ouais, mais
quand
super envergure, c'est pas des jambes quand même.
Moi, je pensais que le piège c'était plutôt avec KD.
Oui. Mais non, il est super grand quand même. Donc,
alors, le score est toujours aussi serré. 6 points pour Félix, 6,5 pour Arnaud, 7,5 pour Fred. Dylan Brooks, avant Houston, il était où ?
Memphis,
Arnaud, 7,5. Rapide, il est rapide, Arnaud, hein, aujourd'hui. Hein, il est motivé. Et nous arrivons à la question Mesmer. Donc là, je vais vous poser une question. Ouais, après, il y a la question multipoint. Si vous avez la même réponse que moi, vous avez le point. Ok ? La question est la suivante. Si Tatum et Haliburton ne s'étaient pas blessés, quel aurait été le résultat de la finale ? Je répète, si Tatum et Haliburton ne s'étaient pas blessés, quel aurait été le résultat de la finale ?
Quel rapport avec Tatum ?
Parce que ça aurait pu changer beaucoup de choses dans cette campagne de play-off.
Moi, je pense que...
Attends.
Ah, c'est Félix qui commence.
Faut penser comme toi, là.
Non, tu me dis ce que tu penses. C'est pas « il faut penser comme toi ». Comme moi. Tu me dis ta réponse et si j'ai la même, t'as le point, c'est tout.
Après, je peux essayer de deviner ce que toi tu penses.
Après, c'est une stratégie.
Je pense que tu penses et je pense aussi. On pense tous pareil.
Je pense que je suis.
Que OKC aurait quand même gagné le titre de champion de NBA.
OKC aurait été champion. Arnaud.
Je pense que Boston aurait été champion.
Ah, c'est intéressant. Ça doit faire plaisir à Fred.
Je pense qu'OKC aurait été champion.
Je pense qu'OKC aurait été champion. Eh bien, sachez que aucun d'entre vous n'a le point.
Car moi, j'ai rien changé.
Je pense que Boston aurait perdu quand même contre New York.
Bien sûr.
Et je pense qu'on était au début d'un match 7 complètement irrationnel.
Ah, tu penses qu'Indiana est...
9
avait...
points en 7 minutes, il était là. En fait, il n'est pas toujours là, Tyrese Haliburton. Il y a des matchs, il passait au travers. Mais là, il était là.
Il était
match 7 à l'extérieur. Il était parti pour être là. Je pense qu'on aurait vécu un truc tellement dingue qu'à la fin, ils auraient pu gagner. Donc, je ne vous donne pas de points.
Moi, j'aime beaucoup cette question parce que tes réponses de merde, on doit dire les mêmes. Quoi. J'aime beaucoup.
Question multipoint. On va la faire aux enchères. OK ? Donc, l'enchère numéro 1 sera posée par Félix. LeBron James vient de clore sa 22e saison. Il était drafté en premier en 2003. Les 7 first picks suivants ne jouent plus en NBA. Vous vous rendez compte de la longévité du type ? Est-ce que vous êtes capable de me les citer, les 7 aux enchères? Félix Gabory.
J'en ai essayé 4.
Ah, 4, c'est pas mal. 4
c'est pas
7.
Mal du tout. Hein.
Ouais, ouais. Arnaud, il est déjà en train de les noter. Arnaud.
7.
Ah, regarde, il stresse. Il a la jambe gauche qui.
Ah, 4. Il vibre. Je vais aller à 5. Moi, je laisse.
Tu laisses, Fred ?
Oh, je laisse.
Une seule chose, je te dis, fais-toi confiance. Tout à l'heure, tu n'étais pas du tout confiant et tu as tout défoncé sur les Français champions.
Oui, mais là, j'ai vraiment aucune idée.
Les 4 noms, donc entre 2004 et 2010, des numéro 1 de draft.
Ah, moi, j'avais le 2011 déjà.
Alors, vas-y. Ah, oui, non, ouais, 2011, non, ça ne marche pas. Il joue toujours le 2011.
Ouais. Alors, tu as. Je réfléchis. Hein.
Bah non, mais si t'en as 4, t'en as 4 quand même.
Non, mais parce que je veux être sûr de pas.
pas démarrer par.
Oh,
pas démarrer par, okay. Par une erreur.
Allez, vas-y.
Déjà, tu as Dwight Howard.
Dwight Howard en 2004.
Après, tu as. Je l'ai sur le bout de la langue, le mec, le pivot de Portland là, qui prennent en 2007.
Ah, je l'avais pas, merci.
Bah, passe à autre chose, ça va te revenir.
Ouais, mais là, je n'ai que lui en tête.
Mais non, non. Il y en a un autre qui est très facile. Si tu prends année par année...
C'est Greg Oden, le pivot de Portland.
Ensuite
il y a, en 2005, c'est Andrew Bogut.
Excellent.
Je cherche en 2006.
Oh merde, je l'ai. Si tu chutes... Alors maintenant que tu as donné ces trois-là, c'est très dommage. Hein.
Attends.
Oui.
Il y en a quand même un sur la liste, ils ne sont pas faciles, hein, mais il y en a un qui est facile.
Moi, j'ai deux. 2006, c'est ton facile.
C'est Andrea Bargnani.
Excellent, 2006. Ouais. Mais il y en a un beaucoup plus facile en 2008.
Là, t'as pas le droit de gagner si tu ne trouves pas.
Mais ça y est, là.
Attends, 2008, on peut essayer de le trouver. Du coup. Ah, c'est Derrick Rose.
Derrick Rose évidemment. Ouais. Voilà. Et 2009, Blake Griffin. 2010, John Wall. C'est une victoire méritée de Félix Gabory. À la semaine prochaine.